d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir, une émission spéciale, particulière, puisque nous fêtons deux anniversaires. D'abord, l'anniversaire de notre émission Mode d'emploi sur cette antenne, Fréquence Paris Pluriel, qui a donc 20 ans. Et également, les marches de la misère et de la colère. Donc, nous fêtons cet anniversaire également. Pour déjà donc cet anniversaire un peu triste puisque nous étions partis dans cette émission pour faire une émission sur le chômage, contre le chômage en tout cas pour au moins un ou deux ans, mais le chômage étant évidemment structurel, non pas conjoncturel, il a perduré.
Attention,
donc,
tu parles comme un économiste.
Exactement.
Comme un membre du gouvernement.
Que je ne suis pas d'ailleurs. Hein. Le chômage étant évidemment a perduré jusqu'à aujourd'hui, donc nous avons été obligés, puisque nous sommes militants, de continuer cette émission jusqu'à maintenant, donc jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous considérons qu'il faut informer les gens et c'est notre mission également de le faire, même si nous ne sommes pas journalistes, en tout cas pas en ce qui me concerne. Donc c'était important d'informer, de dire les choses et de dire un petit peu nos colères, nos désespoirs, nos angoisses, et éventuellement nos joies également, que c'est un collectif qui a été monté en 94 aussi.
Absolument.
Voilà, qui en fait, qui sème la misère, qui récolte la colère. Il y a 20 ans, les marches contre le chômage, la précarité et les exclusions sillonnaient toute la France. Chômeurs, précaires, sans domicile, salariés se retrouvaient ensemble dans une action unitaire qui rassemblait la plupart des associations de lutte contre le chômage et de nombreux syndicalistes. Les marches d'Agir ensemble contre le chômage, dont nous faisons partie, nous trois, en tout cas aujourd'hui, avec oui. Bien sûr Claude à la technique.
Oui, un moment ou un autre, on a intégré ces marches ou ces collectifs de lutte.
Tout à fait, merci Christophe. Nous vous invitons donc à... Donc, l'exigence d'un droit au revenu égal au SMIG et d'un temps de travail de 32 heures sans réduction de salaire, transport gratuit, unité entre salariés et chômeurs, occupation, réquisition, marche européenne, des formes de lutte, des perspectives nouvelles ont alors émergé, en 1994 toujours, bien sûr, qui restent toujours d'actualité. Nous vous invitons à une journée de témoignages et de réflexion sur cette aventure humaine qui ouvrait un cycle de lutte où chômeurs, chômeuses et précaires se sont affirmés aux côtés des salariés comme des actrices et des acteurs de leur émancipation. Pour éradiquer la misère, pour abolir le chômage, il est urgent d'inventer des perspectives novatrices. Pour les 20 ans d'AC, il ne s'agit pas de souffler des bougies, mais d'allumer des flambeaux. Voilà donc cette émission, aujourd'hui, l'heure entière de cette émission sera consacrée donc à cet anniversaire, d'abord de notre union à nous trois dans cette émission, à la naissance de cette émission, il y a 20 ans.
On s'aime.
Voilà, on s'aime énormément. Également, c'est l'anniversaire des 20 ans des marches sur le chômage. Merci. Donc, on va commencer un petit peu. Alors, si tu peux éventuellement nous dire un petit peu comment a commencé cette aventure.
Oui, parce qu'il faut rappeler un contexte que je pense... Enfin, je pense que pas mal d'auditeurs sont au courant du contexte des marches de chômeurs, mais il est utile de le rappeler parce que... En fait, ça vient au départ d'annonces de la NPE de l'époque, hein, l'Agence nationale pour l'emploi. Donc on est en 1994, et qu'est-ce qu'on peut lire? Dès 57 ans, à la recherche d'un emploi de caissière, radié de la NPE pour avoir refusé d'aller faire les vendanges, son dossier précise qu'elle doit travailler assise. G, secrétaire, radié pour avoir refusé une place de serveuse. M, peintre en bâtiment, radié pour insuffisance de recherche d'emploi. Il n'a pu prouver ses dizaines de coups de téléphone et ses multiples visites de chantier, et pourtant M, il voulait travailler. H, aveugle à la suite d'un accident de travail, radié pour insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi. B, cherche un emploi à temps plein, radié pour un refus d'un CES, un contrat emploi solidarité. En juillet, donc, la NPE, on est en 1994, radie 15 000 chômeurs de longue durée, en août 16 000. Les examens de situation tournent à l'élimination. Et puis, il y a eu une dizaine de personnes, ce 20 juin 1992, lors de la rencontre de collectif, à nous retrouver dans la commission exclusion d'organisations et professions variées, mais ayant en commun des pratiques professionnelles et militantes de terrain. Le constat est évident, la société duale existe bien, ce n'est pas une fiction pour roman, même très noire. chômeur ou précaire, jeune ou immigré, exclu du travail ou de la santé, de l'école ou de la formation, du logement. À cette loterie infernale, certains tirent le gros lot. On peut être expulsé de son appartement et perdre ensuite son emploi, ou l'inverse. On peut être licencié après un accident du travail et ne jamais retrouver d'emploi. Ou bien devenir champion de toute catégorie, ex-SIVP, ex-TUC, CES, intérim et stage. C'est toutes les formes de contrats aidés qui stigmatisent les gens. On peut enfin, surtout si on est ch'ti ou lorrain, âgé de 17 ans, être la deuxième génération de ceux et celles qui n'ont jamais connu chez eux autre chose que le chômage. L'absence d'emploi est au cœur de notre société telle qu'elle fonctionne. Regardons en face ce que signifient ces exclusions massives, qu'il s'agisse des galères diverses faites de petits boulots et de stages ou du chômage de longue durée. Les conséquences sont identiques. Plus de points de repère, aucun projet possible, ni dignité, ni citoyenneté et pas d'avenir. Cette fragilisation est souvent irrémédiable. De plus, la politique de l'emploi privilégie la répression, la culpabilisation et la sanction, de l'éducation surveillée pour les jeunes au contrôle des chômeurs. Le réflexe des pouvoirs publics est d'abord sécuritaire, comme si la société des stables voulait se protéger des indigents, et c'est bien de ça dont on parle, des oisifs comme on aurait dit au Moyen-Âge, ou à la fin du siècle dernier, où le travail forcé protégeait le bourgeois contre le wagon de bondage et la mendicité, comme quoi la problématique sociale ne date pas d'hier. La normalisation du travail recherché par le patronat est très sévère, et encore, c'est toujours d'actualité, hein, Gilles.
Oui, bien sûr.
L'employabilité se développe contre l'emploi, les dispositifs dits d'insertion se relèvent d'exclusion, les pressions à la baisse des salaires sont favorisées par une précarité galopante, et les contrôles des chômeurs, la recomposition des qualifications vise à leur flexibilité. Tiens, quand tu nous tiens.
Alors, je voudrais juste dire deux chiffres, quand même, qui sont intéressants à regarder. En 1994, le taux de chômage en France était de 10,2% hein, par rapport donc aux gens qui travaillent, donc, parce qu'effectivement, les chômeurs sont considérés comme des actifs, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même 10,2% des actifs.
Qui cotisent aussi.
10,2% des actifs qui sont au chômage, a priori. C'est quand même énorme. C'était donc un pic, hein, puisque c'est apparemment un pic important, puisqu'en 97 également, c'était 10,3% des gens qui étaient au chômage hein, parmi les actifs. Et aujourd'hui, en 2013, on est à 9,8% selon les différents chiffres que j'ai pu lire. Mais bon, il y a peut-être des différences. Mais
eh bien, en fait, grosso modo, la courbe du chômage n'a fait qu'augmenter, disons, à partir de 90. Mais bon, bien sûr, il y a eu une stabilisation au moment du mandat de Jacques Chirac. Par contre, ça ne fait qu'augmenter. Effectivement, il y a eu deux pics en 94 et en 97. Donc, ça dépend quel chiffre on prend. Si on prend ceux de l'INSEE qui sont, pour des comparaisons internationales, il y a effectivement de 2,7 millions de gens au chômage. Si on prend les chiffres de la NPE, on est au-dessus de 3 millions en 94 et en 97. Et le chômage reflue après. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est en fait à 3 millions. Oui, c'est ce que j'ai dit. La NPE était à 3 900 000. Là, on est à 3 4 millions, en fait. Hein. Donc, d'accord. Historiquement, c'est le plus grand nombre de chômeurs. Voilà, dans le nombre de chômeurs. Par contre, c'est moins important sur la population active parce que la population active a augmenté. Hein, tout simplement, il y a plus de gens, visiblement, qui souhaitent travailler aujourd'hui que dans les années 90. Quoi. Et la population est plus nombreuse aussi, un petit peu plus nombreuse.
Ouais, quand même, je vais quand même dire deux chiffres. Je ne connais pas grand-chose en chiffres, mais c'est quand même assez étonnant quand même. Il faut savoir qu'en 1975, donc c'est bien avant 94, on est d'accord, il y avait quand même que 3,3% de gens au chômage. Donc il n'y avait pas grand monde qui était chômeur à l'époque, hein, en tout cas, une certaine somme quand même, mais bon, c'était beaucoup moins nombreux. Et quand même, il y avait 7,1% en 2008, donc il y avait une petite baisse par rapport à 2006 qui était à 8,4%. Donc on peut voir qu'effectivement, c'est fait un peu fluctuant, mais on est quand même bien au-dessus des 6%, des 6%, parce que ça dépasse pas 6% jusqu'en 81. Hein. En 81,
c'est beaucoup déjà, 6%.
Hein. 6%, c'est déjà énorme.
C'est déjà pas mal.
Voilà. Donc jusqu'en 81, c'était
un peu plus. Voir le barouf que ça faisait quand même. Hein. Je veux dire, Mitterrand, il a été aussi élu sur
en 81. Du million de chômeurs. Hein.
Ah, exactement.
Parce
voilà,
qu'on avait tout à fait. Dépassé la part symbolique du million de chômeurs.
Ah oui, absolument. Oui. Et puis, alors effectivement, oui, aujourd'hui, mais c'est-à-dire que dans les années à la limite 90, on était en train de découvrir effectivement la précarité. On découvrait la précarité. Enfin, il y a des gens qui la découvraient pas, hein, tout le monde, mais c'est vrai qu'à la télé, notamment via les Restos du Cœur, le RMI, tout ça, on a découvert la précarité. Et donc des gens qui étaient quand même exclus, bien exclus quoi, du système. Et on découvrait aussi des licenciements, des charrettes de licenciements, notamment en 93, 94. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le chômage, on a envie de dire que le chômage a changé de visage aussi parce que le nombre d'emplois précaires a augmenté et que du coup la frontière entre chômage et travail est sûrement beaucoup plus floue qu'elle ne l'était dans les années 90, puisque effectivement, et c'est pas compté dans les statistiques que tu as données, mais il faut compter aussi aujourd'hui une flopée de gens qui n'arrivent qu'à aligner que des petits contrats plusieurs heures, de moins de 20 heures. Hein, ça, je crois que ça représente 500 000 personnes quand même. C'est énorme. Et puis aussi, il y a une explosion aussi des CDD. Alors même si la majorité de la population, une large, très très large majorité de la population reste en CDI, récemment, il semblerait que toutes les nouvelles embauches depuis le début de la crise, la part des CDD de moins d'un mois soit écrasante, quoi. Et globalement, d'ailleurs, on embauche énormément en CD. Donc là, pour le coup, on peut dire que le chômage et précarité précarité dans le travail vont vraiment de pair, quoi. Là, il y a pas de doute sur la question, quoi.
Merci Ludo. Alors, je vous propose d'écouter quand même Catherine qui venait donc en 1994, qui faisait partie des marches et qui venait donc du Sud-Est, qui va vous raconter un petit peu comment elle a vécu la chose. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que si le son n'est pas bon comme vous le désirez, c'est normal, c'est ce qu'à l'époque, nous enregistrions avec les cassettes audio. Vous vous souvenez, ces petites cassettes qui tournaient, voilà. Donc, le son est un peu moins bon qu'aujourd'hui, mais maintenant, le numérique va tout réparer. Merci.
Bonsoir. Avec Claude, nous allons recevoir ce soir Catherine, Joël et Eric. Catherine a suivi la marche sud-est, Joël a suivi la marche ouest, et Eric s'est occupé de l'accueil de la coordination sur le 93 de la marche nord et du suivi de la marche de Saint-Denis à Aubervilliers. Une des premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord Catherine.
Bonsoir Catherine. Donc Catherine, qui es-tu?
Je faisais partie donc du collectif national quand l'initiative de la marche a été lancée. Donc j'aidais, disons, à la logistique, la base arrière de la marche. Et notamment, je suivais la marche sud-est. Et à un moment donné, bon, la frustration était telle qu'il a été nécessaire de descendre sur la marche sud-est. Donc je suis descendue 3 jours au niveau de Tonnerre-Auxerre, là où était la marche à ce moment-là. Donc j'ai vécu 3 jours avec les marcheurs de la sud-est, qui était une marche très importante, puisqu'on atteignait quasiment 60 personnes sur cette marche. Une marche composée de manière assez, je dirais, hétéroclite. C'est ça qui était très, très intéressant. Hétéroclite au niveau de l'âge, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes d'une vingtaine d'années et par ailleurs des moins jeunes d'une cinquantaine d'années, je dirais. Et aussi dans le statut à la fois des chômeurs, entre guillemets, traditionnels, des SDF, des sans domicile fixe. Et puis des jeunes qui, étaient dans la précarité, comme connaissent aujourd'hui beaucoup de jeunes connaissent cette situation. Donc un mélange assez détonnant, réellement détonnant, parce que il est évident que à la fois se sont créés des liens affectifs entre toutes ces personnes, mais aussi des liens aussi conflictuels, dans le sens où c'était pour eux, je crois, la première fois un espèce d'apprentissage de resocialisation, si on peut dire, à travers cette marche, un réapprentissage du dialogue, un réapprentissage de prise de décision en commun et de prise de contact avec des institutions telles que des municipalités. Donc un apprentissage à tout point de vue entre eux et vis-à-vis, de l'extérieur. Donc c'était assez extraordinaire de ce point de vue-là, et je crois qu'on personne pouvait, prévoir qu'on pouvait arriver à un tel mélange et à une telle expérience pour eux et pour nous. Je crois que c'était assez extraordinaire de ce point de vue-là.
Cette marche sud-est, elle est partie d'où, à quelle date et combien de temps elle a duré?
Elle est partie de Narbonne et Toulon pour remonter après sur Avignon et suivre, la vallée du Rhône, si je ne m'abuse.
Donc pas loin de 1000 km en fait.
Quasiment, oui, la traversée entière de la France, quoi, on peut dire.
En à peu près un mois et demi. Mais ce qui est important, c'est de savoir, toi par exemple, tu as le sentiment que ça t'a changé, cette expérience?
Disons, ce qui m'a changé, je ne sais pas trop, enfin c'est très difficile à dire comme ça d'emblée. Ce que je peux dire, c'est que ça a été surtout une grande joie, parce que c'était un projet ambitieux et un peu fou, qui à mon avis a été d'une certaine manière un peu au-delà de nos espérances, en ce sens que l'idée avait été donc de faire la jonction entre, disons, salariés et chômeurs, syndicalistes associatifs, et je crois qu'on n'avait pas mesuré à quel point ce projet de la marche avait un écho chez les plus exclus encore d'entre nous. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a comblé d'une certaine manière, c'est qu'on a réussi à toucher ces fameux sans domicile fixe qui n'étaient pas du tout non seulement gagnés d'avance, mais prévus d'avance, à mon avis. On avait, je pense, dans notre tête, les uns et les autres, pensé que ça ne pouvait mobiliser, en tout cas, que les chômeurs et les salariés, enfin, une vision un peu traditionnelle de ce que ça pouvait mettre en branle. Et je crois que c'est ça qui a été assez extraordinaire. De ce point de vue-là, je crois que ça a été vraiment une expérience intéressante, et surtout, je crois le fait que c'est les plus exclus d'entre nous aient retrouvé une certaine dignité, et que si l'exclusion était visible, il suffit d'aller dans le métro à Paris pour la voir, elle était visible mais elle était passive. Et le fait que les plus exclus d'entre nous se soient mobilisés dans cette marche a fait que c'était visible et actif, et je crois que ça a été assez extraordinaire en ce sens-là. Ce qui moi m'a beaucoup marqué, c'est qu'on ait réussi un pari qui était assez fou, et même que ça a été au-delà de ce qu'on pouvait nous imaginer. Ça, je crois que ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a, disons, conforté dans l'idée qu'on avait pris la bonne initiative, même s'il fallait beaucoup d'audace au départ. Mais donc, je pense que qu'il faut effectivement poursuivre cette voie-là. Et y compris, je crois que ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est l'arrivée à Paris, notamment des marcheurs de la Sud-Est, parce que c'est eux que je connaissais le mieux. Et je dois dire que l'arrivée à la Bastille sur les marches de l'Opéra Bastille, avec les trois quarts des marcheurs et marcheuses avec les larmes aux yeux, en disant on a été jusqu'au bout, et en plus, avec évidemment une médiatisation quand même réelle, fait que ça a été, je trouve, pour cette minute-là, je l'ai toujours dit, je crois qu'on avait eu raison de faire cette marche, même cette minute sur les marches de la Bastille.
Il y a de la joie. Jour mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie.
En tout cas, je ne sais pas si les marcheurs contre le chômage et la précarité le faisaient avec de la joie, mais en tout cas avec beaucoup d'entrain et de conviction. Et c'est pour cette raison que nous fêtons donc aujourd'hui les 20 ans des marches des chômeurs et puis également de l'émission Mode d'emploi. Ça fait 20 ans que nous sommes sur cette antenne à essayer de vous informer, tant bien que mal, nous espérons que c'est que ça se passe, voilà. Donc c'est bien l'émission Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Notre numéro de téléphone, si vous voulez intervenir sur l'antenne, c'est le 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Aujourd'hui, je suis avec Ludo et Christophe, mes deux journalistes préférés, et puis Claude à la technique, un technicien hors pair. Voilà, c'est Gilles également au micro. On va reprendre cette émission pour parler un petit peu de la naissance d'AC, puisque AC, Agence en contre-chômage, est un collectif et non pas un syndicat. Attention, c'est pas du tout la même chose. Donc un collectif de méchants militants, non, j'rigole, de gentils militants, et qui ont quand même des choses à dire, et ils ont quand même assez bien dites, mine de rien. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo, un petit peu, raconte.
C'est vrai que, en fait, la grande surprise... des années 94, c'est d'avoir des, comme l'ont dit les sociologues de l'époque, hein, donc Pierre Bourdieu ou d'autres, c'est de voir en fait une catégorie de gens qui plutôt intériorisait la honte d'être chômeur, d'être exclu en fait, et donc qui était passif en fait, qui ne se manifestait pas dans le débat public, de voir tout d'un coup cette catégorie-là revendiquer quelque chose et générer, je veux dire, c'était quand même un mouvement qui était trans, il y a eu des salariés quand même qui ont manifesté aussi pour les chômeurs, et donc c'était le cas d'AC, il y a eu des gens de la CFDT, de Sud Solidaire qui sont venus, et il y avait aussi donc des sans-abri, de faire cette jonction entre des catégories de gens qui étaient quand même, enfin que rien a priori ne qui ne se côtoyaient pas vraiment, quoi, en fait, hein, on peut dire ça. Et donc de rendre visible pour tout le monde, ce mouvement, enfin, par vraiment, par des gens qui effectivement n'avaient rien du tout, ce mouvement qui, enfin, ce fléau qui touchait un peu toute la société. Donc de voir tout d'un coup dans l'espace public des revendications portées par cette catégorie-là, bon, bah, c'était une victoire en soi. Après, les revendications, elles étaient pas, on en discute encore, je veux dire, elles sont plus modernes que jamais, donc faut rappeler quand même que la première revendication, c'était l'abaissement de la durée légale du travail à 32 heures, enfin, de la durée du travail à 32 heures. Je veux dire, entre temps, on a quand même fait les 35 heures.
C'est exact. Hein.
Et puis, ça reste d'actualité, puisque, donc, certains économistes ont tendance à estimer qu'il n'y a pas d'autre solution pour lutter contre le chômage que la réduction du temps de travail. Et que c'est pas du tout une mauvaise idée, pour des tas de raisons, et que même économiquement c'est viable. Voilà. Donc bon, évidemment, les gens à droite et même au gouvernement sont pas tout à fait d'accord. Voilà. Et puis eux, ils aimeraient que ça se fasse dans un mouvement un peu coordonné, mais par exemple, les Allemands travaillent moins que nous.
Oui, c'est quelque chose
à savoir, hein. Voilà. Ils ont peut-être un peu moins de vacances, mais par contre, en durée du travail, une durée semestrielle, ils travaillent moins d'heures. Donc ça, c'était vraiment la revendication phare. La deuxième, dont on discute encore et dont, bon, bah, on peut peut-être progressivement arriver à quelque chose, hein. En tout cas, c'est la crise dure. C'est ce revenu de minimum d'existence, qui était à l'époque égal au SMIC. Alors on n'y est pas, mais enfin, quand vous cumulez un certain nombre d'allocations, alors bon, évidemment c'est modulé selon les besoins des familles, etc. Mais bon, entre-temps, il y a quand même eu le RSA. Donc on a essayé, c'est une activité qui marche pas vraiment bien.
Qui est à moitié du contrôle. Je crois qu'il était à moitié du SMIC, le RSA, non, à peu près, je sais plus.
Le RMI à l'époque.
Le RMI, oui.
Au pouvoir d'achat, mais sauf que, en fait, le problème, c'est qu'il a été très peu revalorisé, donc il a perdu énormément.
D'accord.
Voilà. Bon, ensuite, il y a eu le RSA. Alors le RSA, c'est, pour nous, c'est plus une machine à contrôle qu'autre chose, hein. Et puis c'est beaucoup de tracasserie administrative, il faut avoir du boulot. Donc évidemment, on n'est pas très favorable à ce genre de truc. On préférerait vraiment un revenu décent pour des chômeurs, tout simplement, et y compris des chômeurs à temps partiel, d'ailleurs. Donc ça, bon, peut-être que, encore une fois, d'ici quelques années, on finira par y arriver, à les savoir, hein. Si on traîne encore 3 millions et demi de chômeurs dans un ou deux ans, peut-être que ça pourra se rediscuter. C'est triste, hein, quand même, qu'il faille qu'on s'installe dans le chômage de longue durée pour arriver en fait à porter nos revendications. Et puis alors il y avait quelque chose d'un peu plus ponctuel, qui était cette prime de fin d'année de 3000 francs. Donc on a quand même une prime de Noël, voilà, c'est symboliquement, hein. Donc on a eu la prime pour l'emploi aussi. Bon, voilà, d'ailleurs, vous voyez, hein, les trucs, le gouvernement est toujours un peu ambigu par rapport à, voilà, c'est-à-dire que ces dernières années, il avait plutôt tendance à vouloir soutenir les gens qui travaillaient. Donc à vouloir promouvoir une politique incitative, mais sauf que c'est en période de crue du chômage exponentiel, donc on peut penser que son efficacité est quand même pas terrible. Mais bon, d'un autre côté, quand même, effectivement, alors prime pour l'emploi, prime pour des choses comme ça, deux, trois petits trucs à droite, à gauche, je t'en donne, voilà. Et voilà. Et donc, cette marche a eu effectivement l'occasion à la fois pour les chômeurs, à donner l'occasion aux chômeurs de s'exprimer, de s'organiser aussi en collectif ou en syndicat. Collectif, ça c'était pour AC,
oui.
Collectif déconcentré. Mais bon, il y avait aussi, effectivement, il y a aussi la CGT chômeur.
MNCP, voilà. Puis oui, la PES,
ça c'est pour les cadres. Oui. Les cadres, ils ont toujours le temps de marcher à part, séparés des autres. C'est très français, ça. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on a quand même fait beaucoup d'occupations d'ANPE et d'ACIDIC.
Et au point,
d'ailleurs, qu'aujourd'hui, au point finalement que les directions, ça devient le cas pour toutes les directions d'administration, ont tendance à se réfugier dans des endroits où on peut pas accéder, où le standard ne répond pas. Effectivement, de laisser les agents de Pôle emploi se débrouiller tout seuls avec les chômeurs, ouais. Hein, c'est un peu ça le truc. Donc effectivement, bon, on va peut-être trouver d'autres occasions de manifester, voire donc peut-être de manifester juste avec les gens de Pôle emploi, qui eux aussi sont des victimes du chômage. Voilà.
Moi, je me souviens bien parce que j'ai vécu, je sais pas mon témoignage, je peux me le permettre, j'ai vécu ces expériences-là d'occupation, d'ANPE, de manif, etc., assez vivement avant même de rentrer sur cette antenne. C'était dans les années 95, donc je suis arrivé un peu plus tard. Hein. Je suis arrivé en 95, un an après 94, en gros. Et donc, et ensuite, j'ai découvert effectivement que la radio faisait une émission là-dessus. Donc, Claude m'a demandé de venir éventuellement l'aider. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce que je suis arrivé là-dessus. Bon, moi, j'étais juste là pour une fois par semaine, une fois par mois, par là. Et ensuite, Claude Dubois, qui était dans, vous avez entendu la voix tout à l'heure, qui interrogeait la personne dans le texte là, enfin dans le son là, m'a dit, écoute, les émissions sont en train de s'en aller, parce qu'en fait, il y avait une sorte de fatigue aussi pour les émissions en question. Il y avait le 18e qui partait, il y avait le 19-20 qui partait, Pantin qui s'en allait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas garder l'antenne, puisqu'effectivement, le chômage va rester là, puisqu'il est là pour un certain temps. Et c'est comme ça que vous êtes arrivés sur l'antenne aussi, les gars. Et on a. Mais non, mais c'est une expérience intéressante de faire de la radio, mais en même temps, bon, c'est pas toujours facile parce que toutes les semaines, c'était. Tu te rappelles, on faisait ça toutes les semaines, c'était un peu fatigant. Hein.
Ouais, c'est clair.
Mais moi, je me souviens des occupations avec les quand même des fois les flics qui chargeaient et tout ça. Donc c'était, enfin, surtout dans les manifs, hein, les occupations avec des fois des gars en face de nous, des mecs des acédiques ou des ANPE. Qui n'entendait rien, qui disait nous entendre bien et comprendre ce qu'on disait, mais en fait qui n'apportait aucune solution au problème, quoi.
Bien sûr. Mais de toute façon, faire de la radio, pour nous, enfin, je veux dire, au départ, c'est vrai, quand on a pris cette émission, c'est qu'on pensait que c'était un vecteur qui pourrait être plus efficace que des tracts dans la rue, par exemple. Hein.
Bien sûr.
Bon, la seule chose, c'est qu'effectivement, 10 ans après, c'est vrai que, enfin, le plus dur dans la radio a été de faire de la radio et que ça ne change rien finalement. Mais bon, j'ai envie de dire finalement, je suis pas sûr que quelqu'un qui parle à France Inter change la face des choses non plus.
Non,
en
non,
fin de
sûr,
compte, hein, c'est pas,
sûr, RTL,
c'est vraiment lié,
Europe
voilà,
1, ouais.
C'est vraiment lié au média lui-même. Hein, je veux dire, voilà. Et la seule chose dont on peut éventuellement se targuer après toutes ces années, c'est qu'au fond, mais crise oblige, les idées qu'on défendait il y a des lustres, finalement aujourd'hui sont tellement popularisées
et tellement les mêmes aussi, en fait,
sont les mêmes bien sûr, mais elles sont devenues, bon, il y a qu'à voir les jeunes aujourd'hui, hein, qui voilà, et elles se sont répandues dans les médias traditionnels alors qu'à l'époque c'était complètement inaudible, hein. Faut se souvenir que c'était quand même juste après la chute du mur de Berlin, on parlait de libéralisation à outrance tout le temps, à longueur de colonne, à longueur de gens. Aujourd'hui, bah, on est un peu plus prudent là-dessus, et puis ne serait-ce que sur des histoires, je sais pas, comme la fraude, par exemple. Nous, on a mis des années, je me souviens de l'élection de Sarkozy, je sais pas si vous vous rappelez, en 2007, on avait une campagne vraiment infâme vis-à-vis des parasites, des fraudeurs, des gens qui fraudaient les allocations sociales. Je me souviens que dès l'époque, on avait quand même, pas nous, hein, mais c'était le mouvement militant qui avait sorti un peu les chiffres qui traînaient, des chiffres officiels, qui étaient ceux de l'UNEDIC, des rapports officiels de l'inspection générale des finances qui disait, bah, finalement, la fraude sociale, ça représente 2% des montants de la fraude, quelque chose comme ça. Et c'est complètement ridicule par rapport aux autres types de fraudes. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est des trucs, des choses qu'on retrouve dans les médias traditionnels, quoi, ou officiels, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est des réparties qu'on entend contre Pierre Gattaz, que lui font les journalistes. Et tout ça, ça s'est popularisé. Donc voilà. Donc lentement, il y a quand même des prises de conscience. Bon, il y a encore du chemin à faire, hein, parce que.
Oui, mais il y avait aussi un sens de la communauté, du regroupement, de ce côté militant un petit peu, tu vois, se réunir, enfin. Cette mobilisation,
le collectif,
voilà. Ouais. Moi, j'ai toujours été pour le collectif plutôt que le truc individuel, évidemment. Et c'est vrai que quand je me retrouvais dans le collectif, j'avais une sorte, j'étais pas sur troussel, j'étais vraiment, c'était une sorte de ferveur.
La joie de l'action.
La joie de l'action. J'avais pas tabassé les CRS parce que je suis pas très courageux, mais c'est vrai que j'avais envie de le faire, quoi. Mais c'est. Donc c'était vraiment alors qu'aujourd'hui la possibilité,
oui, je rassure, hein, on se réunit pas au collectif pour taper sur toi.
Voilà.
Je tiens à rassurer l'auditeur ici.
Non, bien sûr. Voilà. Non, mais ce qui est maintenant, c'est que juste pour finir là-dessus, c'est que se mobiliser aujourd'hui, en tout cas en tant que chômeur, ça devient de plus en plus difficile. Et j'ai l'impression que c'est carrément là que la dernière mobilisation était combien,
moi,
une quarantaine, cinquantaine.
Moi, ce que je pense, c'est que ça, bon, c'était très utile, hein, ce qu'on a fait. Mais à un moment donné, tu quittes la politique, tu retournes à la politique.
Oui, bien sûr.
Et après, je vois, donc, je veux dire, le Front de Gauche, toute cette cet essor des partis, de ce renouveau, hein, de partis de la gauche, il est dû aussi à des mouvements comme AC, ouais, et à d'autres, hein, voilà, et oui, aujourd'hui, bah, faire, n'en déplaise aux autonomistes, faire de l'action collective, c'est peut-être aussi à un moment donné faire de la politique ou être dans des collectifs pour des partis, c'est le cas, ou sur des actions ponctuelles qui se limitent pas à la lutte contre le chômage, bien
tout
sûr.
À fait. Merci Ludo. Je vous permets, on va écouter un petit morceau quand même intéressant. C'est toujours en 1994. C'est Joël qui va nous parler un petit peu de la marche qui venait de l'Ouest. Donc, écoutez ça, c'est quand même assez intéressant. Merci.
Propres, fraîchement lavés, ils seront d'ailleurs peut-être même pas secs parce qu'ils sont tellement fraîchement lavés. Et des couvertures, et tout ça est dans un coin du gymnase. Alors on compte beaucoup sur vous. On vous reçoit, on est une association de chômeurs, on est dans la même situation que vous, et dans une mairie qui est communiste, une ville où il y avait des industries, mais où il y en a de moins en moins, donc il y a beaucoup de chômeurs. C'est pas, ça sera pas le but de toute façon, et on peut pas, on vous donnera pas ce que nous on n'a pas non plus. Mais moi je dormirai avec vous dans le gymnase parce que ça me gêne pas, parce que même chez moi, c'est un grand gymnase. On a rien rangé, hein. On a fait un tas et on verra ensemble comment on peut aménager l'intérieur du gymnase.
Voilà, c'était quelques extraits de prise de son sur le vif durant les marches, les accueils, les ambiances. Joël, ça t'évoque quoi, ce que tu viens d'entendre? J'ai vu que Catherine avait un grand sourire lumineux pendant qu'elle écoutait l'extrait. Ça avait l'air d'être un très bon moment, en tout cas.
Il y a énormément de choses à évoquer, parce que bon, de toute façon, cette marche est partie de Brest le 17 avril. Elle est arrivée à Mantes-la-Jolie le 22 mai, en passant par Rostrenen, Rennes, Caen, Le Havre, Rouen, avec des branches qui sont parties de Quimper, Guingamp, Lannion, Alençon. Donc à peu près 43 communes étapes, plus de 900 km de marche au total, 120 à 130 communes traversées avec du soleil, de la pluie, avec 10 personnes, 250 personnes quelquefois sur les étapes. Une diversité de paysages, c'est pas négligeable, parce que la marche c'était d'abord la revendication, mais aussi il faut pas oublier que la vie c'est aussi le plaisir d'être dans la nature, le plaisir de traverser des villes diverses avec leur architecture, etc. Je crois qu'il faut pas, ce n'est pas négligeable. Les rencontres très diverses, entre la traversée. Moi personnellement, donc j'étais au collectif national, je m'occupais de tâches diverses et variées dans les soutes, et j'ai donc passé au total, malgré tout, sur la marche ouest, puisque je m'occupais du suivi de cette marche, une douzaine de jours sur cette marche.
Tu peux nous préciser ce que tu entends par les soutes?
Les soutes, ça consistait d'une part à participer à la rédaction de tracts, d'affiches, remplir des sacs postaux avec les affiches, les tracts, les documents divers donc que nous expédions. Ça consistait à s'assurer que effectivement ce qu'avait demandé chacun des collectifs, qu'ils soient de Marseille, de Rennes, d'Arras, enfin des quatre coins de la France, recevaient ce qu'il avait demandé. Voilà. Et puis, pour revenir donc à la marche, la première partie de cette marche traversait la Bretagne au centre, parce que nous avions, enfin les gens qui avaient donc les collectifs qui avaient préparé la traversée de la Bretagne voulaient mettre l'accent sur la désertification. Et effectivement, il y avait des rencontres avec en particulier la Confédération paysanne qui nous a donc exposé tous les problèmes de la désertification et des paysans. Et il faut souligner l'importance des soutiens apportés par les syndicats, en particulier la Confédération paysanne dans cette partie, mais aussi sur l'ensemble du trajet, puisque l'un de nos objectifs, et de ce point de vue-là, il a été souligné, c'était de réunir dans la diversité, que ce soit les salariés, les chômeurs, les précaires, ceux qui avaient des emplois, sans emploi, logement, etc. Nous avons donc rencontré, trouvé des syndicalistes de différents syndicats, que ce soit la CGT, la CFDT, etc. Donc sur le terrain pour aider les chômeurs pour préparer le passage.
Et je suis curieux de savoir quelles ont été les réactions des gens non organisés, en définitive, que vous avez rencontrés, ce que les coutumiers d'appeler les populations. Vous avez rencontré.
Autochtones, les populations autochtones.
Comment ont-ils réagi à ces marches, à ces manifestations?
Bien évidemment, les réactions sont diverses. Mais ce qui est à noter, c'est que souvent, les réactions étaient beaucoup plus,
positive, et en tout cas les gens avaient une approche beaucoup plus intéressée dans les petites villes, dans les petits villages, les villes moyennes, que dans les grandes villes. Dans les grandes villes, bon, souvent on avait vraiment l'impression vraiment carrément de gêner les gens, de perturber. Je me souviens de la traversée du centre de Caen, où nous étions pourtant 350 personnes. Eh bien, on avait vraiment l'impression d'empêcher les gens de faire du lèche-vitrine, quoi. Alors que j'ai traversé des petits villages où les gens étaient sur le pas de la porte, venaient nous voir, discutaient, nous achetaient les journaux sans difficulté.
Quand tu dis que tu avais l'impression que ça gênait les gens, tu peux aller un petit peu plus loin? C'est-à-dire, non, mais je veux dire, ça se révélait comment, pratiquement? C'est-à-dire, vous êtes fait, insulter, agresser, ou c'était une indifférence, bien appuyée, quoi?
Non, il y a très rarement eu des réactions d'agressivité. Non, souvent, c'était bon, les gens détournaient la tête, ne s'arrêtaient pas pour prendre notre acte, restaient le nez collé sur leur vitrine, éventuellement, quand nous étions dans un centre-ville. Non, de ce point de vue, il faut dire qu'effectivement, il y a très rarement eu des réactions négatives. Bon, même que, enfin, nous avons bloqué nous occupions souvent la chaussée pour, bon, sur le trajet. Bon, tu vois, il y avait des queues d'automobiles qui se créaient. Et, effectivement, nous n'avons eu très peu d'automobilistes irascibles. En général, les gens prenaient notre acte et même souvent trouvaient effectivement que les signatives étaient intéressantes et très bien.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse, à l'intelligence bête. Je n'ai qu'une consolation, c'est qu'on peut être seul et con. Et que dans ce cas, on le reste.
Et oui, vous venez d'entendre donc En groupe, en ligue, en procession de Jean Ferrat, le grand Jean Ferrat, qui nous a quittés il y a un certain nombre d'années déjà. Donc c'est l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Périphérielle. Ce soir, nous parlons donc des 20 ans des marches des chômeurs, également des 20 ans de mode d'emploi, notre émission sur cette antenne. Voilà, donc restez avec nous. Alors, on va reprendre cette émission. Dis-moi, Christophe, à Caen, il s'est passé aussi pas mal de choses.
Moi, j'ai eu une période de chômage assez importante suite à une aberration juridique. C'est-à-dire que je trouvais de l'emploi, mais comme j'avais besoin d'un permis aménager et un véhicule qui va avec, et que j'avais droit à aucune aide, je me suis retrouvé dans l'exclusion, parce que pas de permis, pas d'emploi en province. Donc j'avais toutes les qualifications nécessaires et puis j'avais la loi qui me disait vous aurez le droit à aucun financement, allez vous faire foutre. Et donc je me suis révolté pacifiquement en participant avec ASECAN à la marche par rapport aux recalculés, puisque j'ai fait partie des premiers recalculés. Et en fait c'est une expérience très intéressante parce que Caen avec Marseille, entre autres en province, hein, mais il y a eu d'autres foyers, a été un des foyers les plus importants. Notre fait d'armes, c'est qu'on a réussi à se structurer avec la coordination des intermittents du spectacle.
C'est important.
La conséquence de ça, c'est qu'on était plusieurs centaines quand même à la manif. Alors, c'était rigolo parce qu'il y avait un CRS pour chaque manifestant. Mais ils voyaient bien qu'on était des gens déterminés. Et puis, en luttant et par le biais juridique, hein, moi je tenais la revue de presse régulièrement, on a squatté le théâtre de Caen pendant plusieurs semaines. On a réussi à faire reculer un gouvernement puisque cette mesure de recalcul a été retoquée juridiquement.
Donc je fais pas. Ouais, et puis le gouvernement, ou au départ oui, et puis le gouvernement a lâché l'affaire.
Moi ça m'a appris à lutter par les moyens du droit et toutes les ressources de ce que j'appellerais l'état social, hein, globalement, c'est-à-dire tout ce qu'il peut avoir en termes de coordination. Par contre, si tu veux, cette expérience a démontré trois choses très dérangeantes. D'abord, la première, c'est que l'administration se venge toujours, d'une manière ou d'une autre. Parce que on était quelques-uns quand même à être connus là-bas pour à bosser, à structurer le mouvement. Donc il y a toujours une vengeance de la part de l'administration, de l'État. L'État n'est jamais neutre, ça faut le savoir, hein. Faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi dans cette région, j'ai jamais trouvé d'emploi, hein. Même quand j'étais lauréat des concours de fonctionnaires. On m'a bien fait comprendre, aussi bien à droite qu'à gauche, que j'étais prié d'aller me faire voir, même si mes revendications personnelles avaient été faites dans un cadre démocratique.
Et pacifique.
Pacifique, revendicatif, hein, symboliquement.
En plus, j'imagine en province, comme tout le monde se connaît,
voilà. On a été, même si des fois j'ai eu affaire à des gens un peu virulents, quand des responsables, moi je me souviens d'une très 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 grosse colère que j'ai eue avec le représentant du préfet, qui nous a regardé de très très haut en tant que haut fonctionnaire, nous a regardé comme si on était des gueux, des gens de la pire espèce, qui osaient revendiquer des conditions d'existence dignes. C'était clair, quoi. Et on avait aussi un sentiment, c'est qu'une fois on a occupé une assédique, et puis il y a eu une parole après un temps informel avec le responsable de l'antenne assédique, qui était quand même le coordinateur au niveau de la région, qui dit: de toute façon, moi je donnerai pas les noms au RG parce que mon fils il est au chômage.
D'accord.
Ouais, voilà.
C'est pas mal. Merci, monsieur. Bah, pour une fois qu'on a un ami policier.
C'est gentil.
Voilà. Et puis, il a tenu ses engagements. Et puis, on était suivis par les flics régulièrement, quoi.
D'accord. Non,
c'est clair. On était les méchants, c'était.
Pourtant, c'est eux qui portent les armes.
Même si c'était de façon démocratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les mecs des renseignements généraux, au bout d'un moment, à force de voir nos têtes, ils nous avaient repérés, etc., quoi. Mais un jour, moi, je me souviens, il y a un des policiers qui m'a dit: de toute façon, moi, je prendrai pas vos affaires et puis je vous coffrerai pas parce qu'on est des gens légalistes et puis vous manifestez, c'est vos droits, vous faites ça dans le cadre de la loi. C'est niet.
Oui, alors vous demandez des autorisations pour.
Non, mais c'est la loi. C'est dans le cadre de la préfecture, toi.
Je peux dire que les occupations des ANPE, c'était pas dans le
cadre. Non, mais attends, dans le cadre des manifestations, il y a des manifestations officielles. Et moi, je me souviens d'une réflexion comme ça d'un agent des renseignements généraux. De toute façon, vos revendications sociales sont légitimes. Et moi, vaut ça qu'on fouillera pas vos affaires parce que c'est comme ça et c'est, voilà, on respectera le cadre de la loi. Et ça, c'était à la fin du mouvement, quand le mouvement prenait de l'ampleur, parce que ça tergiversait énormément, ça discutait dans les cabinets ministériels, genre, oula, ça va prendre de l'ampleur. Alors ça, tu vois, c'est le point positif, c'est voir un collectif, des gens divers, de différents horizons, diplômés, pas diplômés, qui se regroupent sur un objectif commun, qui respectent le cadre juridique, qui revendiquent pacifiquement, et qui de façon disent, on cédera pas.
Moi, je trouve dommage que...
Des centaines de CRS, on cédera pas.
Moi, je trouve dommage que... si tu veux, les gens se soient vraiment manifestés dans cette affaire d'histoire mal calculée. Donc c'était effectivement le fait que des tas de gens qui touchaient les indemnités de chômage du jour au lendemain, rétroactivement, ils se voyaient supprimer je sais pas combien de mois d'allocation. Et je trouve dommage que ce soit à ce moment-là, si tu veux, que ces gens-là aient trouvé un intérêt, enfin une conscience commune de chômeurs, presque, on a envie de dire, et qu'effectivement, ils se soient rués sur les permanences
de chômeurs. C'est là où je vais mettre un grand bémol, parce que je me souviens de mes camarades de camp, notamment le président d'Assécan, Jean-Philippe, que tu connais, hein. Je sais pas s'il a encore cette fonction, que tu as connu de nom, qui est un ancien des DUXP. Ce qui a été dommageable, c'est que, il y a des gens de la CFDT, de différents syndicats qui sont venus nous rejoindre et tout. Mais ce qui est vraiment dommageable dans cette histoire, c'est qu'on a vu beaucoup de gens au chômage arriver, sortir le billet de 100 francs, occupez-vous de mon dossier. C'est-à-dire qu'on avait une réaction consumériste. C'est-à-dire qu'on m'a touché au porte-monnaie.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, d'un seul coup, vous m'intéressez et puis vous allez régler mon problème. C'est-à-dire que la notion, en fait, le problème du libéralisme, hein, c'est tous ces liens qui sont cassés à travers la précarité,
le travail, aussi, à travers le travail,
les organisations du travail, etc. On en a souvent. C'est une réalité sociale qu'ont intégré des centaines de milliers de chômeurs, quoi. C'est-à-dire que c'est une logique consumériste, c'est-à-dire que la militance, en fait, on était une quinzaine, une vingtaine, puis une dizaine à monter un truc et aller régulièrement, quoi. Alors ça, c'est ça qui nous interroge, et c'est une des raisons, en fait, si tu veux, que derrière des revendications, il y a aussi des modèles de société à défendre sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et donc là, puisqu'on est dans les problématiques sociales et économiques, c'est moi un des intérêts que j'ai trouvé à participer à l'émission de radio, au-delà des marches, c'est expliquer et revendiquer des idées sur la notion de partage des richesses, sur la notion de partage du temps de travail, qu'est-ce qu'on met dans la qualification, comment un individu est digne dans une société lorsqu'il ne peut pas être, ne peut plus être en âge de travailler ou pour des raisons de santé, il peut plus travailler, bah, toutes ces problématiques-là. Et c'est vrai que nous, on a, de fait, à partir, je vais dire, de 2000-2002, on a creusé sur ce biais-là, parce que c'est un mouvement massif, hein, puis ça allait durer, et on a fini par apporter des éclairages en ayant des invités. Moi, je me souviens d'Olivier Tosseur, lorsqu'il avait paru son livre, ancien journaliste à Libération, je crois, et puis
Nouvel Observateur.
Nouvel Observateur, et son collègue qui était du Canard Enchaîné, qui avait sorti le livre Fortune privée, argent public. Bon, bah, voilà, c'est un éclairage saisissant de ce que c'est que le libéralisme.
Ce qui était sympa d'ailleurs, c'est que c'était en 2006. Oui. Et alors depuis, il y a quand même une flopée de bouquins qui sont sortis par des économistes, mais même de rapports, qui montrait très très bien l'augmentation des très hauts revenus, en fait, hein, dans des proportions qui paraissent complètement délirantes, quoi, en fait.
Eh bien, j'ai entendu dans la France Inter effectivement qu'il y a un mec, un économiste, qui a sorti un nouveau bouquin sur le problème de
des paradis fiscaux.
Des paradis fiscaux et de l'austérité aussi. Mm. Et qui disait simplement qu'on pouvait changer de logiciel et que ça posait aucun problème, quoi. Il suffisait simplement d'avoir un peu de volonté politique. Et puis simplement, ça marchait très bien, quoi. Donc, on n'y est pas.
Qu'on l'a pas essayé.
Le chômage n'est pas une fatalité.
Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'en fait, effectivement, on pourrait se dire, c'est un peu discussion de comptoir, mais en même temps, comme c'est les 20 ans d'assez, on peut y aller. Mais dans tous ces débats, si tu veux, de gens qui prétendent, la rigueur, c'est pas bien, il faut faire autrement, donc il y a des solutions, mais on les applique pas. Le fait est que c'est que nous, on est quand même obligé de constater que sur les 20 ou 30 dernières années, les politiques qui sont suivies, conduisent d'abord à ne pas réduire le chômage, et premièrement, et puis, à une catastrophe sans nom. Donc c'est le cas typique de l'austérité, quoi, au cours des 2008 ou des 2009. Il y a eu des gens pour écrire qu'on était rentré dans une période où le chômage allait s'accroître pendant un nombre d'années important et où on allait la crise allait durer. Et donc du coup, au moins on peut dire ce qu'on ne veut pas. Je veux dire, c'est-à-dire en l'occurrence ce qui ne marche pas pour tenter, je veux dire, d'essayer autre chose. Or, je veux dire, dans les pays d'Amérique latine, bien sûr, où la situation est très différente, mais malgré tout, d'Amérique latine ont pris le contre-pied de toutes les politiques qui étaient prenées par le FMI et par les économistes en chef du FMI.
Chavez, principalement.
Chavez n'est pas celui qui a mieux réussi là-dedans, mais Rafael Correa, par exemple, récemment, hein, qui a des taux, par exemple, de croissance de 4%, et qui a fait, il y a Chavez, bien sûr, hein, qui était à, au moins pour ne pas suivre, effectivement, les politiques du FMI. C'est un des premiers à prôner une entente régionale, mais globalement, par exemple, dans les pays, mais je pense aussi à la Bolivie, hein, où on a quand même le président vient d'être élu, et puis, économiquement, on a quand même des taux de croissance importants. Et c'est vrai qu'on a un mouvement régional de rejet de l'aide du FMI. La première chose est de ne pas dépendre de ces politiques de privatisation. Bon, alors ok, c'est une situation peut-être, on va dire, différente, mais au moins là-bas, il y a des expériences qui se sont tentées, qui étaient des expériences hétérodoxes, d'économistes hétérodoxes. Rafael Correa, d'ailleurs, est économiste, hein, je crois, et qui ont au moins donné quand même des résultats sur certains points. On peut au moins constater ça.
On peut le dire, l'émergence d'une classe moyenne, une réduction massive du seuil de pauvreté pour un ensemble de couches de population, l'apport du fait de ces réductions du seuil de pauvreté d'un capital éducatif par l'émergence ou le renversement d'un système éducatif, la notion de qualification, le partage, et développement de l'artisanat, avec la notion de développement durable, des choses comme ça.
Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, par contre, on a un dogme intangible et intouchable. Et donc à ceux qui disent ouais, il n'y a pas de solution facile, etc., pas de solution miracle, ou vous êtes des utopistes, ou c'est du, c'est qu'il y en a qui a même, j'ai lu ça dans un journal, une éco, des économistes vaudous.
Ah oui.
Non mais ça, c'est, ça fallait la, je crois que c'est dans le monde. Hein. Bon. Fallait le dire ça. Et ben ces gens-là, juste à leur dire, ben, vous savez quoi, jusqu'à maintenant vous avez largement échoué dans votre école, largement échoué.
On peut peut-être essayer autre chose.
Voilà.
Merci à tous les deux. Alors je tiens à dire aux auditeurs auditrices que l'émission se termine pour la rediffusion, mais vous pouvez rester avec nous puisqu'en fait il y a une troisième partie, puisque l'émission d'après SM n'est pas présente sur le plateau, donc nous resterons peut-être une vingtaine de minutes de plus, peut-être 30 minutes maximum. Donc l'émission se termine pour la rediffusion. Alors j'ai quand même deux annonces à vous faire. Donc ça, c'est très 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 important, d'autant qu'on fête dans cette émission les 20 ans des marches et des chômeurs, et que notre émission porte sur le chômage et la précarité. Donc cette manif est, donc allez-y absolument, tant pis si vous devez travailler, bah vous faites grève ce jour-là. Pour la justice sociale, chômeurs, salariés, manifestons contre le chômage et la précarité. C'est le samedi 6 décembre, donc c'est demain, hein, 2014, 14h, place Stalingrad, Paris, à l'appel des organisations de chômeurs, évidemment AC, l'APS, la CGT chômeurs, à la MNCP. Donc allez-y, c'est 14h demain. Et puis c'est un moment aussi de montrer qu'on est qu'on fait nombre et qu'on a aussi encore des revendications. Que ces revendications de 1994 sont encore les mêmes qu'aujourd'hui. Hein, les mêmes, on a exactement les mêmes revendications parce que rien n'a changé, hein, sous le soleil. Alors une deuxième annonce avant de laisser l'antenne. Donc c'est la semaine d'après, le samedi 13 décembre de 14h à 22h, 29 avenue Ledru-Rollin, dans le 12e métro Gare de Lyon ou Quai de la Rapée. Dans les locaux de droit au logement, le DAL, à 14h, c'est la marche, donc c'est le journal de la marche des chômeurs. C'est un film réalisé en 1994 par Manis Abdallah avec l'équipe de l'agence Immédia et plusieurs marcheurs qui sont là également pour en parler. De 15h à 22h, intervention et débat, donc allez-y aussi, c'est carrément important. Il y aura aussi de la bouffe et puis de la boisson, donc c'est à entrée libre, hein, donc on ne demande pas ni carte d'identité ni chèque, hein, on demande simplement 1 ou 2 euros. Pour participer à cette grande manifestation. Donc allez-y, c'est donc deux manifs importantes. Donc demain le 6 et le 13 également. Voilà, je laisse la parole. Merci les filles, gros bisous aux filles et poignées de main aux garçons. Ciao.
Bonsoir.
Si mon machin c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche des nouveaux francs, je mets des virgules aux ortolans. Les temps sont difficiles. Cet écrivain n'a pas de client, il vit seul avec son talent. Mais faut bouffer et faut ce qu'il faut, même si l'on bouffe au Figaro. Les temps sont difficiles.